Bonsoir. Ouverture samedi 15 septembre au Parlement de la session ordinaire de septembre. Reconnaissant que cette session est la dernière de leur législature, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, a salué l'engagement des députés nationaux qui ont agi, selon lui, en toute responsabilité durant les 6 dernières années. De son côté, le président du Sénat, Léon Kengouadondo, appelle à un sursaut patriotique pour la construction d'une démocratie selon les aspirations du peuple congolais. Quels sont les enjeux de cette session? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Crispin Ngoï. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
Vous êtes député national et communicateur de la majorité présidentielle et aussi secrétaire général en charge de la politique du parti RUDEC. Paul Mouindo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique RCD-KML. Vous êtes également président de la commission Dialogue, Paix et Démocratie au sein de l'Union des jeunes parlementaires africains. Jeff Moudimbi, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Alain.
Vous êtes professeur à la faculté des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le Parlement congolais devrait édicter des lois pour punir tout Congolais ou étranger qui appelle à des interférences extérieures sur le processus électoral. C'est le vœu du porte-parole du gouvernement congolais. Lambert Mende l'a exprimé samedi à Kinshasa à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire de septembre. Bien qu'essentiellement budgétaire, cette session s'avère éminemment politique et courte au regard des enjeux électoraux dans la campagne électorale qui se pointe à l'horizon. Plus de détails avec vous, Michel Kifindangoy.
La rentrée parlementaire est intervenue à 3 mois de la tenue des élections, c'est donc la dernière session de cette législature. Au regard des enjeux de l'heure, le porte-parole du gouvernement présent au Parlement plaide pour le vote des lois capables de mettre la RDC à l'abri des interférences extérieures. Lambert Mende.
Ne soyons pas naïfs. Nous devons mettre notre pays à l'abri des interférences extérieures. Elles nous ont déjà coûté Patrice Lumumba, nous et Laurent Désiré Kabila. Protégeons-nous. Et il n'y a que le Parlement qui peut édicter des lois qui peuvent punir tout Congolais ou tout étranger qui appelle à des interférences extérieures sur le processus électoral.
Les députés nationaux Passisa Pamba insistent, lui, sur la nécessité du contrôle. Parlementaire.
Un Parlement qui ne contrôle pas n'en est pas un. Et donc, nous devons renforcer cet aspect, surtout pour que le gouvernement réponde aux desiderata de la population. Sinon, du reste, nous allons à la sortie. Seulement une évidence, c'est que le 23 décembre, les uns vont quitter, les autres vont revenir.
Les parlementaires ne disposent donc que de 2 mois, non seulement pour voter les lois sur la reddition des comptes et le budget 2019, mais aussi pour examiner les autres matières jugées urgentes. Sans oublier le contrôle parlementaire. Et ce, avant d'aller en campagne électorale.
Merci Michel Kifindangoy. Crispin Ngoï, vous êtes député national et communicateur de la majorité présidentielle et aussi secrétaire général en charge de la politique du parti RUDEC. Ce n'est pas toujours de coutume dans cette émission, mais brièvement, vous revenez des vacances parlementaires. Un mot très rapidement sur ce qu'ont été vos vacances.
Merci beaucoup Alain. Et avant toute chose, laissez-moi saluer d'abord toute la population qui me suit en ce moment à partir de la ville de Mbujimayi dans le Kasaï oriental, qui est mon fief électoral, et ceux qui sont à Kabinda dans la province de Lomami. Et
qu'ils sachent. Alors, comment ça s'est passé?
Ça s'est passé très bien. Je voudrais le saluer avec l'expression de mes hommages les plus différents en tant que leur élu. Et je viens de Mbujimayi et ça s'est passé très bien. Et la population passe chez moi à la maison. On a causé et je suis venu pour l'ouverture. Et quelques mois, quelques jours, je vais encore retourner pour la continuité de notre vie commune.
Honorable Paul Mouindo, député national de l'opposition et cadre du parti politique RCD-KML, président de la commission Dialogue, Paix et Démocratie au sein de l'Union des jeunes parlementaires africains. Vous aussi, comment se sont passées vos vacances parlementaires?
Oui, je voudrais tout d'abord aussi saluer toute la population du territoire de Béni, d'où je reviens. Vous savez, le territoire de Béni est parmi les territoires les plus sinistrés de la République. Nous avons été là, nous avons célébrer des grandes activités avec les jeunes dans le cadre de Journée internationale de la jeunesse. Nous avions été à Manguina où l'Ebola continue, n'est-ce pas, à se vivre, mais aujourd'hui il faut quand même dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être manifestés par le gouvernement, coup de chapeau. Nous saluons aussi les efforts allant dans le sens de pouvoir payer les personnels de la santé qui travaillent autour de l'Ebola, mais il reste des défis importants à relever. Ce que nous avons constaté, c'est notamment des défis liés à la sécurité de la population, et chose pour laquelle nous sommes vite revenus pour plaider davantage, parce que c'est important. Avoir des élections dans des conditions telles que les gens ne peuvent pas savoir se déplacer pose encore un problème. Mais nous saluons tous ceux-là qui continuent à fournir des efforts. Merci. Dans ce sens-là, et la population de Mutsora, de Bulongo, de Oïtia et de Manguina.
Alors, honorable Crispin Ngoy, cette session est la dernière de cette législature. Vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, saluer l'engagement des députés nationaux qui ont agi, selon lui, en toute responsabilité durant les 6 dernières années. Quel bilan pouvez-vous rapidement dresser de cette législature qui s'achève?
Effectivement, nous référons au calendrier électoral publié par la CENI. Comme il programme les élections au 23 décembre, c'est effectivement une dernière année. C'est effectivement une dernière année, sinon les 6 années, telles que le président de l'Assemblée venait de le dire, il a brossé un bilan largement positif, puisqu'il a indiqué les niveaux de responsabilité avec lesquels les députés ont agi pendant les 6 ans. Vous savez que toutes les questions orales, les questions, les interpellations, bref, le contrôle parlementaire n'était plus question de populisme, et c'était une réalité. Et puis il a fait remarquer aussi que cette fois-ci les questions écrites étaient beaucoup plus nombreuses que les questions orales, donc c'était une amélioration dans le sens. Et puis il a indiqué le nombre de lois qui ont été votées, donc le bilan a été largement positif par rapport aux législatures passées. Donc, il a encouragé le député à continuer dans le même, avec le même élan, puisqu'il a, il s'agit de notre pays. Donc, c'est le bilan qui a été programmé, c'est un bilan largement positif, et selon le président de l'Assemblée, et les députés sont toujours disposés à continuer à travailler et à rendre service à la nation congolaise.
Alors, plusieurs auditeurs vous reprochent notamment la faiblesse du contrôle parlementaire. Ils se disent qu'il y a beaucoup de bévues, beaucoup de problèmes de gestion au niveau du gouvernement, une faible mise en application des recommandations du Parlement au gouvernement, mais l'Assemblée nationale laisse passer tout ça et ne contrôle pas suffisamment le gouvernement.
C'est pour dire qu'il n'y ait pas confusion entre le contrôle populiste et le contrôle réel. Effectivement, pendant tout ce temps, il n'y a pas eu de contrôle populiste. Qu'est-ce qu'on appelle contrôle populiste? C'est-à-dire quoi faire venir un ministre, lui poser la question, et puis faire passer la question orale avec débat, la transformer en interpellation jusqu'à la motion de défiance, et puis faire tomber un ministre. Et ça, ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça l'objectif d'un Parlement. L'objectif d'un Parlement, c'est contrôler pour permettre à ce que les membres de l'exécutif puissent se mettre au travail afin que le peuple congolais puisse bénéficier. Donc, ce qu'il y a eu pendant ce temps, c'est un contrôle réel. Ce n'est pas un contrôle populiste, c'est un contrôle réel, effectivement, qu'on a senti que les ministres se sont mis au travail. Moi, je peux vous confirmer que chaque fois quand vous passez dans un ministère, et bien quand vous écrivez une question écrite, vous transmettez une question écrite au ministre, c'est tout le ministère qui est en ballotage, c'est tout le ministère qui tremble. Donc, c'est un travail très très bien fait, qui n'a pas seulement été populiste, mais qui avait été profond. Donc on ne peut pas nous reprocher la manière de travailler, mais nous travaillons d'une manière beaucoup plus responsable afin que chacun là où il est, qu'il se mette au travail afin que le peuple congolais puisse bénéficier de ce travail-là.
Il y a eu effectivement beaucoup de lois votées, mais aussi des dossiers assez lourds. Je prendrai le cas du dossier FPI qui a éclaboussé beaucoup de personnalités, mais qui a semblé rester sans suite.
Vous savez que l'Assemblée nationale n'est pas policier. L'Assemblée nationale, quant au dossier FPI, c'est un dossier qui a été traité en profondeur. Les recommandations ont été déposées et on avait même exigé à ce que le DG des FPI soit suspendu. C'était une demande de l'Assemblée, ce qui avait été fait. Et tous ceux qui se sont retrouvés avec des dettes sont en train d'être pourchassés. Et d'ailleurs, c'est une occasion que vous me donnez maintenant qu'on leur dise qu'il faut aller payer, puisque tellement que l'application de la loi devient de grande rigueur, à ce jour, tous ceux qui ont des dettes au FPI doivent aller le payer. Puisqu'il n'y aura plus encore, dans ce pays les intouchables qui devraient avoir des dettes au FPI sans pour autant rembourser. Vous savez que pour ceux qui ne comprennent pas les choses, ils ne voient pas que la République a changé de vision. La République n'est plus la même. Vous savez que le président de la République, qui a décidé de respecter la Constitution, il l'a dit et il l'a fait, tout le monde doit respecter la loi. Dans ce pays, tout le monde doit respecter la loi. Ceux qui ne voudront pas respecter la loi, et la justice s'occupera d'eux. Donc, ceux qui ont des dettes au FPI, effectivement, comme l'Assemblée l'avait déjà recommandé, ils seront traqués, ils seront pourchassés, et ils doivent procéder au remboursement de dettes.
Vous parlez des recommandations de l'Assemblée nationale au gouvernement, mais on a noté au niveau de cette institution une très faible application de ces recommandations.
Nous savons que l'institution n'a que le pouvoir de la parole. Donc, quand on donne une recommandation, on suit. Au cas où le gouvernement ne parvient pas à appliquer ou exécuter les recommandations qui sont faites, nous avons la liberté de faire revenir encore le gouvernement et le frapper dur pour qu'il le permette de le faire. Mais comme vous nous rappelez, c'est-à-dire quoi, je vais feuilleter, et tout ministre qui n'a pas pu appliquer les recommandations, l'Assemblée est déjà là, on va frapper dur, bien sûr, avant d'aller aux élections. C'est la dernière session et on sera beaucoup plus sévère.
Voilà, honorable Paul Mouindo, l'honorable Crispin Goy, lui, dresse un bilan très positif à l'instance de celui du président de l'Assemblée nationale de cette législature. Quel est le vôtre?
Oui, je voudrais d'abord féliciter tout le parlementaire qui a travaillé, dira, cette législature depuis le début jusqu'à présent. Il y a ceux qui étaient décédés. Nous présentons des condoléances à leur famille. Et vous savez, le Parlement, c'est l'Assemblée nationale, c'est même là que s'exprime le vrai désiderata du peuple. L'Assemblée nationale, c'est même là où nous avons les représentants directs du peuple congolais. Pour ce qui concerne le mandat de représentation ou le bilan de l'Assemblée nationale, il faut relever en fait, c'est que sur le plan effectivement de la production législative, parce qu'ici il faut faire une analyse par rapport aux missions du Parlement ou aux missions du député. La première mission qui est celle de légiférer ou de voter de loi, bien effectivement il faut relever ici que comme le président l'a dit, il y a eu 180 lois votées, et contrairement aux anciennes législatures, c'est vraiment un score fleuve, bien sûr de lois qui avaient été votées, mais vous savez, c'est une chose de voter une loi, une autre aussi de l'appliquer. Mais il faut s'y relever, en fait, c'est que il y a des lois qui avaient été votées, mais il faut relever le fait, par exemple, de la démocratie par rapport à la minorité. Toutes les lois avaient bel et bien été votées, mais il y a des lois qui étaient votées dans des conditions telles que, par exemple, on pouvait assister l'opposition sortir. Tout simplement parce qu'à un certain moment, des lois qui n'étaient pas réellement, qui n'exprimaient pas bien la volonté de la population. Je prends par exemple le cas de la loi électorale à 2015 qui avait permis à l'opposition de sortir et qui avait entraîné toute une marche sur l'Assemblée de la République. Il y a la dernière loi, c'était la loi sur le statut des anciens chefs d'État ou le président, des anciens présidents.
Et donc des lois votées de manière cavalière.
Effectivement, ce sont des faiblesses qui, au regard d'un bilan positif, mais il faut relever des faiblesses qui restent des faiblesses par rapport à la démocratie parlementaire. Et au-delà de cela, il faut aussi évoquer un autre fait, c'est que dans d'autres démocraties, on peut voter de lois et on peut s'arrêter pour dire quelles sont les conséquences de nos lois dans la société. Je prends le cas du Sénégal, où à un moment, on s'arrête, on évalue, et puis on essaie de réorienter les actions futures, ce qui ne se fait pas chez nous ici. Pour ce qui concerne le contrôle parlementaire, ici je voudrais rappeler que le contrôle parlementaire tire son fondement sur le principe selon lequel c'est le pouvoir qui peut et doit arrêter le pouvoir. C'est-à-dire quoi? Nous avons trois pouvoirs dans notre pays. Nous avons le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir exécutif et nous avons le pouvoir judiciaire. Ce qui signifie que lorsqu'on est parlementaire, on est revêtu d'un mandat qu'on appelle le mandat du contrôle parlementaire. Et ce mandat évite ce qu'on appelle un blessing. Un blessing, c'est une liberté totale à l'exécutif. Et c'est dans ce sens-là que nous contrôlons. Mais il faut dire ici relevé que le contrôle, en tout cas, c'est parmi les grandes faiblesses de notre Parlement. Bien sûr, quand on parle de faiblesses, ça ne signifie pas que nous avons 0 sur 10. Ce sont des faiblesses qui nous ramènent à un degré vraiment d'inefficacité. Et ici, je voudrais d'abord...
Alors, si je comprends le propos de l'honorable Crispin Ngoï, qu'est-ce que vous aurez souhaité que des ministres tombent, par exemple?
Vous savez, les contrôles parlementaires ne peuvent pas être réduits simplement aux questions écrites. Les contrôles parlementaires, ce sont des questions orales, ce sont des questions, ce sont les interpellations, ce sont des questions d'actualité, ce sont des motions, et ces activités ou ces actes doivent aboutir. Mais on constate, par exemple, que pour la plupart des questions ou des motions qui sont souvent débattues au sein du Parlement, très souvent ça n'aboutit pas. Merci. Soit c'est rejeté par des mécanismes qui ne sont pas consacrés ni par les règlements ni par les lois. C'est le cas le plus récent de la motion contre le ministre de la Défense par rapport à la situation de Béni.
Merci,
donc
honorable.
Nous allons revenir par rapport à cette question du contrôle.
Merci honorable. Jeff Moudimbi, vous êtes professeur à la faculté des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Professeur, commençons par les vacances parlementaires. Très peu de députés ont le temps d'aller, de descendre, revoir leur base pour faire le compte rendu.
Oui, merci beaucoup, M. Alain. Je salue d'abord les honorables députés. Et je voudrais effectivement marcher dans le sens de votre question en disant que bon, si les co-débatteurs ont été dans leur circonscription électorale, c'est une bonne chose que nous devons saluer. Mais généralement, on se rend compte que très peu d'entre eux descendent dans leur circonscription électorale. Donc nous avons affaire à des courtisans qui sollicitent la population juste pour le suffrage et aussitôt qu'ils sont élus, ils tournent le dos à leur base. Ils vont encore attendre le moment des élections venir pour encore courtiser cette population et surtout se fondant sur le principe selon lequel la mémoire du pauvre est faible. Donc on oublie facilement et dès qu'on lui présente un peu d'appât et vite cette population-là ne tarde pas à mordre à cet appât-là. Donc c'est vraiment une situation déplorable pour certains. Je pèse bien mes mots pour certains qui n'ont pas le temps de descendre et de rendre compte auprès de leur base électorale.
Alors, professeur, dans la suite, pour vous, vous l'avez suivi, les députés Crispin Ngoï et Paul Mohindo, pour vous, quel est le bilan, quel bilan on peut dresser de cette législature?
Merci beaucoup. Je pense que le bilan doit être placé à mon niveau, même à deux niveaux principalement. D'abord, au niveau de la production des lois. Il est certain qu'il faudrait les reconnaître, l'Assemblée nationale ou le Parlement congolais a élaboré d'importantes lois, tant du point de vue de leur qualité que du point de vue de leur nombre ou quantité. Mais à ce niveau, j'ai un peu une objection à émettre, c'est que produire des lois ne suffit pas, parce que là, sinon, on tomberait dans la production pour la production. Mais il faudrait produire des lois et se rendre compte que ces lois ont réellement un impact sur le quotidien de la population. Je pense que cet exercice-là n'a pas été tellement mis en œuvre par les députés, parce que il faut toujours arriver à évaluer l'efficacité des lois qui ont été édictées. Alors, c'est vrai, on a produit des lois, on les a produites, mais il n'y a pas eu, à un moment donné, le temps de les juger, le temps de les apprécier. Est-ce que les lois que nous avons déjà édictées ont été efficaces? C'est-à-dire que est-ce que ces lois-là ont produit des résultats attendus? C'était encore là un aspect sur lequel le Parlement devait aussi se pencher. L'autre aspect, c'est au niveau du contrôle du gouvernement, la manière dont la gestion des affaires publiques est assurée par le gouvernement. Est-ce que le Parlement congolais a été à la hauteur? Dans certains cas, oui, mais dans d'autres cas, nous avons constaté que on est tombé trop bas, c'est-à-dire au niveau du protectionnisme politique. C'est-à-dire qu'on a tellement cajolé les membres du gouvernement au point qu'on n'a pas senti vraiment le poids ou l'emprise du Parlement sur le contrôle de la gestion des affaires publiques par les membres du gouvernement. Finalement, bon, c'était un peu une sorte de camaraderie, une sorte entre la majorité parlementaire ainsi que les membres du gouvernement. Mais un autre aspect que nous devons relever, c'est que bon, le Parlement lui-même, dans son fonctionnement, a présenté aussi des faiblesses. Pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'en dehors d'abord des interférences politiques dont le Parlement a été l'objet, et cela a conduit à une cohabitation entre ce dernier avec un gouvernement qui ne résulte, un gouvernement ou des gouvernements qui ne résultent pas de la majorité parlementaire. Donc, on est arrivé aussi à une situation anticonstitutionnelle, parce que la Constitution dit que le gouvernement ou le chef du gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Mais les interférences politiques ont fait que, bon, finalement, nous avons un Premier ministre qui n'a rien à voir avec la majorité parlementaire.
Professeur.
Cette situation, je tente de l'expliquer par le fait que le Parlement lui-même a accusé une faiblesse. La faiblesse, c'est quoi? N'a pas respecté le mandat, c'est-à-dire le timing, la durée.
Professeur.
Donc, à ce moment-là, à partir du moment où on est au-delà du mandat, on devient faible. Et c'est ainsi que nous observons maintenant une sorte de consociationnalité entre le Parlement et le gouvernement.
Et donc, professeur, en un mot, pour vous, le bilan, il est mitigé?
Oui, effectivement, le bilan, il est mitigé. Bon, il y a des points forts que l'on peut relever, il y a aussi des faiblesses.
Honorable Kespengo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kalemi.
C'est Kamil Matembera, j'appelle de Kalemi. 15 septembre 2018, l'ouverture de la session ordinaire au Parlement était la dernière. Il nous reste 95 jours pour répondre aux honorables députés et sénateurs sur leurs engagements sollicités par l'honorable président de la Chambre haute du Parlement. Mais la question que je me pose, c'est celle-ci. Est-ce que c'est le gouvernement qui était difficile à être contrôlé sur ses actions ou c'est le Parlement qui était inefficace en matière de contrôle?
J'ajoute cette réaction d'Albert Kolimbelad qui nous écrit de Kisangani qui dit « À mon humble avis, les présidents des deux chambres devraient s'excuser car ils ont trahi la nation en votant des lois taillées sur mesure. Sinon, les peuples n'oublieront pas le sang des Congolais qui sont tombés sous vos yeux sans aucune intervention. » Honorable Chris Fengoy.
Je vais commencer par remercier mes compatriotes qui ont posé ces questions. Quand il faut commencer par le premier, il pose la question de savoir est-ce que c'est l'Assemblée qui a failli pour le contrôle parlementaire ou est-ce que c'est le gouvernement qui a été
qui était trop fort.
Voilà, donc le gouvernement ne peut en aucun cas, quelles que soient les circonstances, ne peut être fort par rapport à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est l'émanation du peuple lui-même. Tout gouvernement est issu de cette Assemblée-là. Voilà pourquoi aucun gouvernement ne peut jamais hausser la tête devant l'Assemblée nationale.
Mais le professeur Jeff Mudimbi a dénoncé cette relation incestueuse entre le Parlement et le gouvernement.
Ce n'était qu'une impression extérieure. Et pour nous-mêmes, nous savons que lorsqu'on invite un ministre à l'Assemblée nationale, quelle que soit sa conviction politique, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, je vous informe bien qu'il ne vient pas en ministre, mais il vient en membre du gouvernement qui vient répondre. Donc l'impression de l'extérieur, pour montrer comme si les ministres étaient aisés lorsqu'ils sont à l'Assemblée, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Aucun ministre n'a jamais été aisé quand il est appelé à l'Assemblée nationale. Il vous suffit tout simplement d'être sûr qu'il est dans le ministère. Lorsqu'un ministre est invité, et personne ne dort. Du ministre jusqu'au dernier de son cabinet, tout le monde travaille durement pour répondre à la question, puisque tout peut arriver. Vous n'oubliez pas qu'il y a des ministres qui tombent par une décision de l'Assemblée nationale et ils tombent définitivement.
Il y en a eu combien ?
Cette législature, on n'a pas voulu faire des interpellations fantaisistes, comme je vous dis, ou des interpellations trop populistes.
Alors, honorable Kesmengo...
Mais je vous informe qu'il y en a qui sont tombés. Le ministre, le tout premier ministre de la Défense, il était tombé. Le ministre de l'Industrie, il est tombé. Le DG de l'FBI, il est tombé. Alors, ils sont tombés à l'issue de ces
interpellations. Ils sont à compter au bout des doigts d'une main.
Oui, mais il ne fallait pas faire tomber tous les gouvernements pour que vous soyez... Oui.
Alors, honorable Kesmengo... Pour vous, quels sont les enjeux de cette session? On sait qu'elle sera très courte, 2 mois au lieu de 3. Il y a des matières principales, elle est budgétaire, il y aura la reddition des comptes, le projet de budget que le gouvernement doit déposer. Et il y a beaucoup de matières qui sont restées comme arriérés législatifs. Pour vous, quels sont les enjeux?
La durée de toute session parlementaire est d'abord constitutionnelle. Personne n'a dit que cette session sera de 2 mois. Personne. C'est une session ordinaire de 3 mois. Bien que pendant cette session, il y aura l'intervention de ce qu'on appelle la campagne électorale. Mais la session de septembre, constitutionnellement parlant, c'est une session essentiellement budgétaire. On va parler du budget 2019, puisqu'il faut doter du pays le budget 2019. On va parler de la reddition des comptes. Et en dehors de cela, il y a des questions politiques. Vous savez que la session passée, on n'a pas pu recevoir le rapport de la CENI. Et je crois qu'au cours de cette session, la CENI devra passer pour faire son rapport et puis poser des questions, répondre aux questions d'ordre populaire que les gens veulent écouter. Donc il y a des matières de grande importance qui seront traitées en dehors de la session budgétaire et en dehors de la reddition des comptes. Alors, toute matière qui va politique, qui va se poser, sera traitée avec acuité.
Alors on présume que vous allez devoir courir derrière le temps. Quelle sera la qualité de ces lois qui seront produites?
Et la qualité sera bonne. Vous savez que pour ceux qui ne sont pas des milieux parlementaires, on ne prépare pas la campagne pendant les mois électoraux. La campagne, elle se prépare dès le premier jour de l'élection. Donc, c'est depuis 2012 qu'on est déjà en campagne jusqu'à ce jour. Donc, il ne faut pas croire que l'Assemblée va se vider pour que les gens puissent aller faire la campagne. La campagne a été déjà faite pour ceux qui veulent se faire réélire. La campagne a été déjà faite. Ça sera tout simplement la formalisation. Mais l'Assemblée va aller jusqu'au 15 décembre, la date constitutionnellement prévue pour sa clôture.
Et donc, je reviens à vous tout à l'heure, honorable Paul Mouindo. Il y a pour vous cette réaction qui nous vient du Maniema.
Soumaïli David Moussafir depuis la province du Maniema. Les enjeux de cette session participant, les deux chambres parlementaires du pays, ne seront que la comédie et l'utopie, du fait qu'on leur a donné la conscience et elles ont failli à leur mission en faisant le contrôle de ce que le peuple attendait d'elles. Le peuple a choisi les députés pour plaider pour lui, mais dommage, ils ont plaidé pour eux-mêmes en cherchant leurs intérêts égoïstes. D'autre part, le Sénat a fait le contrôle de sa mission. Au lieu que lui puisse contrôler l'action du gouvernement, mais c'est le gouvernement qui le contrôle et le manipule. Donc, les enjeux de cette session est une pire utopie, car ils n'ont presque rien fait de bon selon les aspirations et les attentes du peuple.
J'ajoute cette réaction du professeur Ignace Ndala qui nous écrit de Kolwezi, qui dit « Je ne vois pas ces élus sortir par la grande porte après avoir pataugé dans les conséquences malheureuses de la bipolarisation du système politique congolais sans réussir à contrôler l'exécutif, laissant les problèmes de fond comme le dossier machine à voter, le système éducatif et la vie sociale des Congolais. » Honorable Mouindo.
Merci bien, je voudrais saluer donc M. David Soumaïdi. Je crois que tout en reconnaissant qu'il y a des faiblesses importantes qui avaient été manifestes tout au long de notre législature, et nous continuons à les dire que effectivement les contrôles parlementaires étaient bités à un problème suite d'abord à la double casquette du président 1, qui était celui du président de la majorité parlementaire ou de la majorité effectivement de la majorité présidentielle, et au même moment président de la chambre basse.
Et donc un conflit d'intérêts.
Il y avait un conflit sérieux d'intérêts. Il devrait au même moment protéger avec la famille parlementaire, protéger le gouvernement, mais au même moment être au milieu du village. Donc je crois que pour l'avenir, il faudra que le président du Parlement ne puisse pas savoir jouer les deux casquettes. La deuxième difficulté qui était une des difficultés liées au contrôle parlementaire, c'est une difficulté liée à la non-application du mandat non impératif du député. C'est-à-dire, à un moment, les députés, surtout de la majorité, s'est trouvé entre un dilemme, servir le peuple qu'on représente ou respecter le mot d'ordre de son parti politique. Parce qu'il y a par exemple des initiatives qui, aussitôt votées ou aussitôt soumises au vote, il fallait attendre des mots d'ordre, car bien même les initiatives ou les questions étaient totalement importantes. Ça, c'est de deux. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a quand même des initiatives qui avaient abouti. Ici, effectivement, parlant de la question FPI, c'est parmi les grandes initiatives que nous avions faites. On avait recommandé à ce que le responsable puisse quitter, il était sorti, c'était une bonne chose, bien que c'était après un grand combat au niveau du gouvernement. Il faut aussi rappeler, par exemple, la question de l'emploi. C'est moi-même qui étais initiateur de la question, l'interpellation du ministre de l'Emploi. Nous l'avions interpellé parce que le SMIG était toujours de 1$ jusqu'en 2017. Mais il faut reconnaître, après l'interpellation, aujourd'hui, le gouvernement avait tout fait pour ramener ce SMIG à 7 075 francs ou 4,3 $, ce qui est un grand pas, mais qui ne s'applique pas aujourd'hui, parce que le SMIG a été modifié, il ne s'applique pas, d'où l'importance de revenir sur les aspects importants réellement du contrôle parlementaire. Et ce sont les enjeux importants. Moi, je me dis, l'actuelle session devrait normalement, au-delà du fait qu'elle est une session budgétaire, elle devrait aussi consacrer beaucoup de son temps sur des questions du contrôle parlementaire. Il faut dire qu'à un certain moment, on doit s'arrêter et se dire, est-ce que nous avons réellement touché toutes les questions sociales de la population congolaise? Nous ne sommes pas le pouvoir judiciaire, mais nous avons le droit policier à travers les contrôles parlementaires. Et il faut éviter de dire que lorsqu'on fait tomber un ministre, ça signifie qu'on devient populiste. Non, ce n'est pas du populisme. C'est la loi qui impose au Parlement de revenir sur une motion de défiance ou une motion de censure qui est une loi. Alors lorsqu'on peut dire que ça devient du populisme, ça signifie que la loi est populiste. On ne doit pas considérer cela ainsi.
À cet effet, honorable Mouindo, il y a Isaac qui nous écrit, Bamporiki qui nous écrit de Bukavu, qui dit que ce n'est pas en 2 mois que le ou 3 que le Parlement va faire mieux que ce qu'il n'a pas pu faire en 7 ans.
Mais bien sûr, nous ne pouvons pas à ce jour nous dire qu'on va combler tout le vide de faiblesses constatées. Parce que il faut se dire que c'est aussi pour cela que nous étions en train de nous battre pour qu'il y ait élection. Puisque nous allons aux élections, et maintenant, comme le pouvoir revient au peuple, le pouvoir doit maintenant, partant du bilan présenté par le Parlement et par chacun des députés dans sa circonscription, de se dire, est-ce que réellement ce député m'a valablement représenté? Est-ce qu'il avait réellement représenté, il avait réellement légiféré? Et non se dire que non, bon voilà, on a acheté pour la population, on a fait peut-être des ponts, on a acheté des pagnes, et que sur base de cela, on doit voter les députés, là on sera en train de se perdre.
Merci honorable Mouindo. Professeur Jeff Moudimbi, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
C'est Jean-Claude Bampa à partir de Bukavu au sud Kivu. De manière simple, les enjeux de cette dernière session parlementaire vont tourner autour du processus électoral. Surtout que la température politique nécessite une morphine. Je vois mal que le parlementaire aurait la capacité de se contenir. Dans le débat, les tendances politiques vont dominer quelles que soient les matières à traiter. Enfin, l'influence et l'ingérence politique ne donneront aucun bon résultat qui sera bénéfique à la population.
Professeur, j'ajoute cette réaction de Sébastien Ndiaye qui nous écrit de Kananga au Kasaï central qui dit « En effet, ayant échoué sur tous les fronts durant la législature qui va bientôt se terminer, si élection y a, les parlementaires sont effectivement obligés s'ils veulent se racheter auprès de la pauvre population meurtrie, démunie, qui vit en deçà du seuil de pauvreté. Ils doivent adopter des lois nécessaires surtout qui cadrent avec les enjeux politiques de l'heure ou carrément veiller au contrôle du gouvernement pour l'amener à finaliser les projets déjà amorcés. » Professeur Jeff Mudimbi.
Merci beaucoup. Je voudrais respecter bien le point de vue de M. Jean-Claude comme aussi de M. Sébastien. Mais je voudrais rappeler une chose, que la session d'octobre est essentiellement une session budgétaire. Mais ce qui est évident, c'est que l'histoire politique du Congo nous renseigne que toutes les fois qu'il y a eu des rendez-vous pareils, aux côtés des enjeux électoraux, les politiciens y accordent moins d'intérêt. À titre illustratif, avant l'indépendance de la RDC, les politiciens se sont retrouvés pour la table ronde de Bruxelles. Mais aux côtés de cela, il fallait aussi statuer sur la table ronde économique qui devait être convoquée plus tard. Il vous souviendra que les politiciens y accordèrent très peu d'intérêt parce qu'ils étaient beaucoup plus préoccupés par des questions électorales. Alors, c'est dans ce sens-là que je me dis, bon, contrairement à ce que j'ai entendu dire que la campagne se fait déjà ou a commencé à se faire depuis 2012, mais laissez-moi dire à l'honorable que tout cela c'est en théorie, mais en pratique, c'est le moment où on doit sortir les cartouches pour espérer gagner. Sinon, si on croise, on dort sur ses oreilles prétextant que bon, j'ai déjà bâti ma campagne depuis 2012, et je pense que beaucoup d'entre eux risquent d'être surpris. Donc, c'est autant dire que c'est vrai, les députés, quoi qu'il en soit, ils seront là. Mais en réalité, leur finalité ou encore leur attention sera beaucoup plus orientée vers l'organisation des élections. C'est pour autant dire, et ça, j'affirme sans crainte d'être contredit, que les honorables députés auront très peu d'intérêt pour cette session. La préoccupation fondamentale sera la préparation effective, pas en théorie, effective de leur campagne électorale.
Professeur, il y a près de 17 matières comme arriéré législatif. Les matières principales pour cette session, là, on aura la reddition des comptes, le projet de budget. Vous doutez de l'engagement des députés à cet effet. Que peut-on attendre des lois qui seront issues de cette session?
À mon humble avis, je ne connais pas très bien quel sera donc le calendrier des honorables députés arrivés à épuiser toutes ces matières-là. Mais de toute évidence, nous avons suivi, il y a eu même des sessions extraordinaires avec des matières spécifiques bien déterminées. Mais on a fait couler tout le temps sans que les parlementaires n'arrivent à statuer sur ces matières-là. C'est autant dire, c'est vrai, les matières sont déjà connues, mais je ne pense pas que toutes ces matières-là soient traitées. Il y aura des matières qui seront bien entendu traitées compte tenu de leur urgence, mais le reste, je pense qu'on va confier à la législature prochaine.
Professeur, du point de vue plutôt qualitatif, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je dis ceci. La qualité d'une assemblée ou d'un parlement ne consiste pas seulement à élaborer les lois. Je crois que j'ai encore insinué quelque chose dans ce sens-là. Mais aussi, il faut mesurer l'efficacité des lois dont on a voté. Donc on ne peut pas seulement se frotter les mains que nous avons voté autant de lois, mais est-ce que ces lois-là ont atteint les objectifs pour lesquels elles ont été élaborées? Et ça, à ma connaissance, le Parlement congolais ne l'a pas fait. Donc édicter des lois est une bonne chose, mais veiller à leur application en est une autre.
Honorable Jospin Ngoï, qu'est-ce que vous répondez par rapport à cet aspect évoqué par le professeur Moudimbi? L'honorable Paul Moindo en a aussi parlé quand il évoquait la question des conséquences des lois sur la société.
Vous savez que quand on vote une loi, on ne la vote pas pour la voter, on la vote puisqu'il faut résoudre un problème de la société. Effectivement, quand on vote une loi, l'exécutif est appelé à les exécuter et nous, nous contrôlons et nous vérifions. Et si on constate qu'il y a une faille, c'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle la révision de telle loi. On peut modifier la loi dans tel sens ou dans un autre sens. Donc, on ne vote pas les lois pour les abandonner dans le vide, mais on vote les lois, on les applique, et quand on trouve les failles, on y revient pour le corriger. Tel est le cas de la loi électorale. Vous savez qu'en 2011, la loi électorale que nous avons aujourd'hui n'est pas la loi de 2011, puisqu'on a constaté que la loi de 2011 avait des failles, et on a corrigé pour avoir la loi de 2018. Donc, chaque fois, les lois ne sont pas définitivement votées, mais elles sont appelées à être modifiées pour s'adapter à la réalité sur terrain.
Honorable Moindo, il y a aussi cette question qui est toujours pendante du remplacement du délégué de l'UDPS à la CENI.
Effectivement, vous savez, non simplement nous devons dire que nous avons peu de temps, mais il est juste question de savoir que c'est une session ordinaire, mais bien sûr, l'aspect psychologique qui est lié à la préparation des élections sera va beaucoup affecter cette session. Il faut dire que nous rappelons que vraiment il est important au bureau du Parlement de pouvoir trancher une fois pour toutes cette question. Je crois qu'il a vent de l'estime et même de la respectabilité du bureau de notre chambre. Et je crois que nous devons encore y revenir, dira cette session, pour trancher une fois pour toutes. Mais il y a aussi la question liée à la sécurité électorale. Donc ce sont des aspects importants que nous devons aussi évoquer, dira cette session. Comment doivent se dérouler les élections dans des zones totalement insécurisées, telles que le Nord Kivu, telles que Beni, telles que Oïtia, et partout ailleurs. Il y a la question la question financière qui doit aussi s'accompagner. Vous savez, depuis le début, et nous n'avions jamais, disons depuis la session passée, on n'avait pas étudié la question ou les rapports de la CENI, nous devons y revenir. Mais il y a aussi des lois importantes. Par exemple, la révision de la loi agricole, ce sont des petits aspects, c'est lequel on doit revenir, dira l'actuelle session.
Et en guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite du processus politique avec cette session qui s'ouvre?
Oui, je crois que le Parlement et l'Assemblée nationale a un rôle important à jouer dans une démocratie et elle représente, n'est-ce pas, les désiderata du peuple. Nous pensons que le parlementaire doit savoir faire la différence entre leur parti politique et les besoins réels de la population. Merci. Cela permettra à ce que les vrais besoins soient réellement exprimés au niveau de l'Assemblée.
Merci. Professeur Jeff Moudimbi, l'honorable Paul Moindo évoque la question aussi liée à la sécurité électorale ainsi qu'aux finances de ces élections.
Oui, je pense que, bon, c'est son point de vue que nous respectons très bien, mais par contre, moi, je voudrais juste simplement placer un mot en disant que les députés doivent éviter de tomber dans une sorte d'autosatisfaction, parce que une telle manière d'agir risque de les bloquer au point qu'ils ne feront plus rien, ils ne feront plus mieux pour la nation congolaise. Et il y a encore beaucoup de choses qu'il faudrait faire pour que la population arrive à bien se retrouver aussi dans la manière d'assurer la gestion des affaires courantes. Mais le protectionnisme politique dans lequel les députés ont vraiment brillé a été très nuisible pour l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise.
Et en guise de conclusion, donc, vous pensez qu'ils peuvent encore se racheter, comme le disait Sébastien Ndiaye de Kananga?
Je pense que l'heure n'est plus encore au rachat ou à se racheter. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il est temps que la population puisse les juger et sanctionner positivement ceux qui peuvent l'être. Merci. Et négativement ceux qui le méritent.
Merci. Honorable Crispin Ngoï, pour vous, quelles sont les matières les plus importantes qui ne doivent pas nécessairement manquer au courant de cette session?
Vous savez que, bien que la session est essentiellement budgétaire, il y a un grand dossier, c'est le fait d'amener le peuple aux élections. Et tout le monde, le souhait de tout le monde est que ces élections soient apaisées. Je crois que les grandes décisions se prennent au sein de l'Assemblée nationale, les grands débats se prennent au sein du Parlement. Je crois que c'est le moment que tous les députés se mettent ensemble, regardent dans la même direction, puissent trouver les voies et moyens qu'il faut pour que les élections soient apaisées. Il faudrait que la vie post-électorale soit une vie aisée et que la fête puisse se manifester sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il faudrait qu'on puisse mettre de côté nos intérêts personnels, que nous puissions vivre, viser beaucoup plus l'intérêt de la République démocratique du Congo et de son peuple.
Merci.
Pour que nous soyons heureux.
Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.